Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast pour la première interview de l'année 2021. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir une invitée qu'il me tenait vraiment à cœur d'interviewer et qui m'a soutenue depuis les débuts de YogiBiz Coaching. Mon invitée du jour travaille avec des professeurs de yoga, des marques de vêtements de yoga, de tapis de yoga, des organisateurs de retraites et d'événements ou encore des plateformes de cours de yoga en ligne. Son métier, c'est de créer des visuels originaux pour tous ces acteurs du monde du yoga afin de les doter d'une communication visuelle ciblée et impactante. Et elle le fait remarquablement bien. Vous l'aurez sans doute démasqué, mon invitée du jour, c'est Delphine Joly de Yoga Photorama qui a fait de ses deux passions, le yoga et la photographie, un métier sur mesure qui s'est imposé à elle comme une évidence, photographe de yoga. Vous découvrirez donc dans cette interview le parcours de Delphine, comment elle a osé tout quitter pour vivre de sa passion et se lancer dans un business ultra spécialisé. Experte et généreuse, Delphine nous expliquera l'importance d'une bonne communication visuelle pour les yogipreneurs, pourquoi faire appel à un photographe professionnel, mais également des techniques et astuces pour réaliser de belles photos de yoga par nous-mêmes avec un simple smartphone, ainsi que les erreurs à éviter. Un épisode qui regorge donc de beaux et bons conseils que vous pourrez appliquer tout de suite après votre écoute. Sans plus attendre, je laisse place à ma conversation avec Delphine. Bienvenue Delphine, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur YogiBiz Podcast.
Merci à toi d'avoir pensé à moi pour cette interview. Je suis régulièrement ton podcast et je suis très très touchée d'en faire partie aujourd'hui.
Écoute, j'ai beaucoup d'amour, comme disent les Canadiens, et beaucoup de connexion avec ton histoire, parce que je crois que tu as un petit peu tout quitté pour vivre de ta passion, pour te créer ton job sur mesure, un job hyper spécifique, et tout le monde sait que avoir un public cible, c'est un petit peu mon domaine de prédilection. Donc j'ai vraiment hâte de t'entendre sur ton métier, et du coup ma première question par rapport à ça justement, j'ai la curiosité de savoir en fait comment t'es venue l'idée de te spécialiser dans la photographie de yoga.
Alors en fait c'était pas du tout une stratégie de ma part. J'ai travaillé pas mal de temps dans le cinéma et l'idée en fait c'est que je suis un peu arrivée au bout de ce que je faisais. J'ai traversé, comme je pense pas mal de gens qui font une reconversion, une grosse crise de sens. J'ai fait un bilan de compétences et j'ai vraiment fait le tri dans tout ce qui me parlait dans ma vie et il restait le yoga et la photo. Le yoga, ça fait vraiment partie de ma vie depuis pas mal d'années, ça fait 7-8 ans que je le pratique. Et donc je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans. Au début ça m'est vraiment apparu comme une blague en fait, parce que photographe de yoga ça n'existait pas. Et puis finalement je me suis pris au jeu et j'ai surtout vu qu'il y avait une réponse en face et voire même une demande en fait. Je me suis pris au jeu, j'ai continué à faire ça et j'ai vraiment voulu me professionnaliser. Donc du coup je me suis formée, je me suis dirigée vers l'école de l'image Les Gobelins pour faire une formation professionnalisante de photo. Et en fait c'est comme ça que c'est parti. Et c'est parti très vite. Au départ, je suis allée discrètement sur la pointe des pieds demander au prof avec qui je pratiquais s'il voulait bien me faire une petite faveur et poser devant mon objectif, voilà. Et puis ça a pris hyper rapidement et c'est comme ça que de fil en aiguille, ça s'est lancé. Et puis avec le pouvoir que j'ai découvert à ce moment-là des réseaux sociaux, en fait, il y a une émulsion qui s'est faite très très rapidement et je me suis lancée comme ça.
Parce que du coup, le temps de te former, etc., tu as commencé quand concrètement cette activité ?
Tu vois, là, on est en février, ça fait donc 3 ans que j'ai quitté le confort de mon CDI, des tickets resto, des congés payés. Et du coup, voilà, je me suis formée et je vais dire que ça fait vraiment 2 ans que j'y suis à plein temps.
Ok, donc effectivement, il y avait, enfin, le yoga était déjà en pleine expansion, il y avait déjà l'impact des réseaux sociaux. Donc en fait, rapidement, tu as communiqué sur cette activité via les réseaux sociaux pour te faire connaître en
C'est
fait.
ça, et c'est
Ouais.
surtout que en fait, notamment Instagram, c'est une plateforme, tu le sais très bien, qui est très puissante sur le yoga, mais aussi sur la photo. Donc pour moi,
Ouais.
c'était le meilleur média pour commencer, et à date d'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Voilà,
Ouais, le
c'est une
match
super.
parfait.
Exactement, ça correspond vraiment à ces deux univers-là, donc c'était parfait.
Et avant de continuer sur la photo, parce que je sais que c'est ce qu'attendent aussi nos auditeurs, tes petits secrets, est-ce que cette activité, justement, elle a changé ta relation avec le yoga et avec ta propre pratique, en fait?
Forcément, ouais, parce que moi j'ai toujours pratiqué très régulièrement, mais c'est vrai que je me suis surprise à certains moments dans un cours à me dire waouh, cette pose elle rendrait trop bien visuellement en photo. Forcément, ça pervertit un petit peu les choses. Et du coup, j'essaye vraiment de me dire bon, non, là c'est mon moment à moi, je coupe tout, je coupe le cerveau, je suis dans ma pratique, ma respiration, et je lâche tout le reste pour vraiment ressentir les bienfaits de ma pratique perso. Mais après, ça a eu aussi d'autres impacts super positifs, comme me faire découvrir des choses que je connaissais pas. Par exemple, j'ai couvert une retraite de yoga dédiée au féminin sacré. Ça m'a fait découvrir vraiment cet univers-là qui n'était pas très familier pour moi. Maintenant, il y a plein de profs qui viennent me voir avec des spécialités, yoga du visage, méditation sonore, et du coup, ça me permet de rentrer et de découvrir encore plus de choses que après j'intègre dans ma pratique perso, parce que très souvent, voilà, c'est des choses qui résonnent en moi. Donc oui, il y a un gros gros échange entre ma pratique et ce qui est mon métier, même si en fait aujourd'hui je m'éclate tellement dans ce que je fais que j'ai jamais l'impression de travailler. Quand je vais sur un shooting, j'ai l'impression d'être en vacances avec une copine et on passe 2 heures à se marrer, mais forcément il y a pas mal d'échanges, évidemment.
Ah, mais c'est hyper intéressant en fait ce que tu dis parce que du coup je me retrouve un petit peu aussi, c'est-à-dire que le moindre truc je me dis comment je peux en faire du contenu, donc un petit peu comme toi quand tu pratiques et que tu te dis comment je peux, enfin faut que j'y pense pour faire des photos la prochaine fois, et en même temps ce truc de découvrir du coup plein plein d'autres aspects autour d'un yoga voilà plus traditionnel, et moi aussi du coup avec mes élèves et mes coachés je découvre tellement d'univers différents, c'est hyper enrichissant, donc c'est vrai qu'on a de la chance. Et alors justement en parlant de pratique, est-ce que il faut avoir une pratique très avancée pour faire un shooting de photos de yoga?
Alors c'est marrant parce que c'est une question qui revient très très souvent. On me dit mais soit moi je viens juste d'être diplômée, ou je suis pas une telle ou une telle, je sais pas mettre mon pied derrière ma tête. C'est vraiment pas la question. C'est vraiment pas la question, parce que l'idée c'est qu'on va aller photographier déjà avant tout des poses dans lesquelles on est à l'aise. Parce que quand on n'est pas à l'aise, on a le visage super crispé. Même si par miracle on arrive à passer la pose, finalement la bouche sera tordue, il y aura la peur qui se lit dans les yeux, donc ça va pas le faire du tout. L'idée c'est vraiment d'aller sur des postures dans lesquelles on est confortable, et puis il y a surtout des postures qui sont très très simples et qui sont hyper esthétiques, comme par exemple un chien tête en haut. C'est très représentatif du yoga pour les gens qui connaissent pas du tout le yoga et qui, enfin voilà, qui sont des grands débutants. Ils voient un chien tête en haut, en général ils savent ce que c'est, ils savent qu'on parle de yoga, et c'est une posture dont les lignes sont vraiment très esthétiques. Donc voilà, on peut faire des choses, des très jolies photos en partant sur juste les postures de base de la salutation au soleil, et ça fonctionne très bien. Donc il n'y a aucun prérequis en termes de niveau ou quoi que ce soit pour faire un shooting, bien évidemment.
Ah, ça c'est super. C'est bien, ouais, en effet, de le préciser parce que je pense qu'on doit se mettre un petit peu la pression sur le fait de se dire, bah ouais, mais voilà, je viens de démarrer, je vais pas être à l'aise, je vais pas savoir faire. Et du coup, donc concrètement, alors j'imagine que le gros avantage en plus de travailler avec toi, c'est que comme tu connais le yoga, évidemment, du coup, tu vas guider dans les postures et ça, c'est juste différence avec un photographe lambda, quoi, globalement. Donc ça, c'est génial pour la, le positionnement, l'alignement, etc. Et du coup, donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que t'as dans ton, enfin, qu'est-ce que tu proposes toi? Comment ça se passe en fait si on veut travailler avec toi?
Alors moi depuis le départ j'envisage vraiment la photo de yoga comme un portrait, c'est un portrait en pied, en mouvement, voilà, donc c'est une forme un peu différente de portrait mais ça reste un portrait et donc j'ai envie de raconter à travers mes images qui est la personne que j'ai en face de moi. Donc pour ça, en fait, j'ai besoin de la connaître un minimum. Donc avant une séance, on va passer pas mal de temps à discuter. Avant, on prenait des cafés. Un jour, on y retournera,
on
j'espère.
Des cafés, ouais.
Voilà, si je peux, je viens assister à un des cours de la personne que je vais shooter. C'est aussi ça c'est très riche comme en termes de d'enseignement. Mais au minimum, on discute pas mal de temps pour que la personne me raconte qui elle est, ce qu'elle enseigne. Quel message elle a envie de faire passer à travers les photos. Parce que, en fait, je suis assez fascinée depuis le départ par la relation entre le corps et l'esprit. Et je pense que le corps parle énormément, raconte beaucoup de nous. Voilà. Et c'est ce que j'essaye de raconter à travers ces images. Donc, en fait, on discute pour faire connaissance d'abord. Et puis, on va définir ensuite ce qu'on a envie de faire passer comme message. Et à partir de ça, on va choisir le décor. Pour moi, le décor, c'est assez important et je passe énormément de temps à les choisir. Bah, déjà parce que j'aime bien qu'ils soient originaux et pas revoir les mêmes 50 fois sur toutes les photos. Je travaille beaucoup à Paris, donc on a une richesse de décor qui est assez incroyable. Mais j'ai vraiment envie que le décor corresponde à la personne et à ce qu'elle va faire passer. Très clairement, sur un shooting de yin, on n'ira pas sur le même décor qu'un shooting très dynamique, très urbain. Voilà. Donc on cherche le décor, on prépare la tenue au niveau des couleurs pour que ce soit aussi homogène par rapport à tout l'univers de la personne et puis par rapport à la symbolique des couleurs aussi. En fait, on prépare tout un tas de choses pour que vraiment le jour du shooting à l'instant T, on puisse être à 100% dans la pratique et qu'on oublie tout le reste. On est vraiment dans son flow, on est dans ses postures, et parce que ça peut être un moment un petit peu stressant, le shooting, pour les personnes qui l'ont jamais fait, il y a une grosse caméra en face, mais bon, ce n'est que moi derrière, mais voilà, l'objet est un peu gros. Donc voilà, et du coup, plus c'est préparé, plus une fois qu'on est dedans, on peut oublier tout le reste et être vraiment vraiment dans sa pratique. Et bien évidemment, comme tu l'as dit, l'avantage, c'est que je peux guider autant dans l'alignement que aussi dans le cadre. C'est-à-dire que je vais proposer des postures qui vont vraiment bien s'insérer dans l'architecture du bâtiment qui va derrière par rapport à la lumière du jour. Alors bien évidemment, on va jamais chercher l'alignement parfait parce que c'est pas non plus le but en yoga, mais on va vraiment chercher quelque chose où on s'assure quand même que le corps est préservé, qu'on va pas se faire mal aux genoux, ou parce que c'est pas ce qu'on veut montrer non plus. Donc, on fonctionne comme ça et les séances durent à peu près 2 heures en général. Et 2 heures, c'est vraiment le temps qu'il faut aussi pour se mettre à l'aise, pour établir cette connexion toutes les deux et cette intimité, parce que en fait, on dévoile toujours pas mal de soi. C'est un moment où on se met à nu, en fait, quand même un petit peu face à la caméra, et donc il faut se sentir en confiance aussi pour être capable de le faire. Et le facteur temps là-dedans, il est hyper important parce que il permet justement de se mettre à l'aise, de se familiariser avec le bruit du déclencheur et du coup on parle vraiment on parle pas mal pendant toute la séance et voilà, et c'est ce qui fait qu'au final on va réussir à vraiment créer de belles images ensemble. Et du coup, pour finir, à la suite de la séance, en fait, je mets toutes les photos qu'on a réalisées ensemble sur une galerie en ligne et c'est la personne qui va donc choisir une sélection de photos qu'elle souhaite. Parce que ça, je me suis rendu compte que c'est hyper subjectif. Il y a toujours le « Ah, mais c'est pas mon beau profil, c'est pas ma bonne oreille », voilà. Donc, même si moi, il y a des photos que je trouve très réussies, le plus important, c'est que la personne qui est photographiée les aime, soit fière de les partager. Donc, voilà, c'est elle qui a le choix, la sélection finale, quoi, je dirais.
Ouais. Eh ben c'est en tout cas donc hyper intéressant déjà et hyper rassurant parce que vraiment on sent qu'on est guidé et je pense qu'en fait l'appréhension qu'on peut avoir c'est d'avoir à être soi-même acteur de la séance de yoga mais là voilà entre ce que tu nous expliques par rapport à la préparation de la séance et puis à ce que toi tu connais et du coup qui fait que tu es capable de vraiment guider, je pense que ça met carrément en confiance. Et du coup, ça m'amène à un autre point. Finalement, comme tu mets justement aussi en confiance, on sent ça dans tes prestations. À quel moment est-ce que tu recommandes du coup de faire un shooting avec toi, plutôt au début de son activité, plutôt.
Alors, est-ce
qu'il y a un moment idéal?
Non, c'est ce que j'allais te dire. Il y a pas vraiment de moment idéal. Ça va vraiment plus dépendre de chacun et du stade de réflexion auquel tu es. Il y a quelques personnes qui sont venues me voir même pendant leur training et qui n'avaient pas fini et avec qui on a fait des séances et puis finalement elles sont revenues vers moi pour en faire une deuxième parce qu'elles se sont rendues compte que on n'était pas sur les bons codes couleurs, c'était pas complètement abouti, on n'avait pas exactement le bon format pour leur site internet. Donc en fait l'idée, le bon moment, c'est le moment où il y a déjà eu une petite réflexion préalable pour savoir un petit peu quelle utilisation je vais faire de mes photos? Est-ce qu'elles sont destinées aux réseaux sociaux, à mon site internet? Quel est le format dont j'ai besoin au niveau vraiment des photos? Et puis, quel est mon univers? Quelle est mon identité visuelle? Quelles sont mes couleurs? Et voilà, dès qu'on a ces éléments de base, on va pouvoir vraiment travailler des visuels qui vont être beaucoup plus pertinents. Et moi, plus j'ai d'éléments sur la personne, mieux je vais pouvoir répondre à son besoin. Après, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit aussi que elles avaient un petit peu d'appréhension pour se lancer sur les réseaux et tout ça, et qu'en fait, le fait d'avoir des jolies photos, ça avait vraiment été un tremplin en fait pour oser se lancer. Donc, c'est un petit peu au ressenti de chacun, mais je pense que vraiment, quand même, quand on a déjà quelques bases de réflexion sur ce dont on a envie, c'est le bon moment pour se lancer.
Alors c'est tout à fait exact hein, ce que tu dis sur elles ont l'appréhension le fait d'avoir des visuels, ça les aide effectivement à se lancer sur les réseaux. Parce que je me souviens avoir déjà fait un sondage en story justement par rapport notamment à Instagram sur ce qui était le plus difficile en fait de trouver les visuels ou d'écrire des légendes par exemple. Pour moi qui n'aime pas trop écrire, voilà, je pensais avoir aussi à l'unanimité le fait de pas savoir quoi raconter, quoi dire, etc. Ouais. Et en fait non. C'est effectivement les visuels qui est le premier point bloquant pour les profs de yoga. C'est vraiment ce qui était revenu.
Mais ça découle en fait parce que du coup, quand t'as un visuel qui est bien construit et qui raconte une histoire en lui-même, le texte qui va l'accompagner, il va dérouler assez naturellement. Donc voilà, c'est un bon pied à l'étrier pour commencer, pour se lancer quoi.
Et alors justement, puisqu'on parle de communication visuelle, c'est une grande question, hein, mais c'est quoi pour toi une bonne communication visuelle justement? Et donc là, enfin, tu nous as parlé du coup de toute la réflexion à avoir en amont des shootings, mais est-ce qu'on peut aller plus loin de définir ce qu'est une bonne communication visuelle?
Alors en fait l'idée c'est que tout ce qu'on fait là le point final c'est d'attirer les élèves qui vont nous correspondre dans nos cours. C'est ça l'objectif final. La communication visuelle qu'on va mettre en place pour arriver, pour atteindre cet objectif-là, c'est vraiment de revenir à l'essentiel, le point, qui revient très souvent et que je valide complètement, c'est le retour à l'authenticité.
Ouais.
En fait, c'est revenir vraiment à qui je suis, quelle est ma pratique, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes élèves à travers le yoga. Je pense vraiment qu'il y a autant de profs que d'élèves. Tout le monde ne cherche pas la même chose en tant qu'élève et tout le monde ne propose pas la même chose en tant que prof. Il y a des élèves qui vont chercher vraiment de la relaxation, de l'apaisement, du lâcher prise. D'autres qui vont être vraiment sur du workout, qui ont vraiment envie de se dépasser. D'autres qui cherchent de la méditation. Donc en fait, l'idée, c'est de se demander qu'est-ce que moi je propose, qu'est-ce que j'ai envie de donner. Et c'est vraiment la raison pour laquelle moi j'envisage ça, les photos que je fais comme un portrait, comme je te disais tout à l'heure. Donc la communication visuelle, ça va être vraiment de définir qu'est-ce qui fait que c'est moi, qu'est-ce qui fait en fait pour créer le bon match fait prof-élève, qu'on se rencontre et que du coup avec tes visuels, tu ailles vraiment cibler la personne qui va vraiment avoir qui va avoir besoin de ce moment de relâchement, de lâcher prise que tu lui proposes. L'idée c'est ça, c'est vraiment de réussir à juste. Enfin, pour moi, il faut pas en faire des caisses. Il faut vraiment revenir à l'essentiel de qui on est. Et c'est comme ça, plus c'est ciblé, plus ça va parler en fait.
C'est vraiment un outil pour connecter et pour créer du lien, quoi, en fait. Parce que effectivement, si j'utilise des visuels, on va dire de banque d'images qui ne sont pas moi ou qui du coup transmettent pas ce message, enfin ou plus difficilement, puisqu'il n'y a pas ma personnalité, mon authenticité. Effectivement, du coup, il y a quelque chose de plus plat, quoi, de plus fade, qui du coup effectivement on s'éloigne dans ce cas-là d'une bonne communication visuelle. Ok, super intéressant.
Et puis en plus on peut pas, enfin quand on parle de soi en toute sincérité, on peut pas se tromper, enfin ce n'est que soi, donc enfin il n'y a pas d'erreur à commettre en fait.
Oser être soi avec les shootings de Delphine. Et du coup, souvent, les personnes qui shootent avec toi, elles font une séance ou... le fait d'en faire une, après, ça amène à d'autres séances.
Absolument. En fait, ça amène souvent à d'autres séances. Et c'est pour ça que, du coup, de fil en aiguille, j'ai lancé l'année dernière un système d'abonnement et qui fonctionne super bien. Parce que ça nous permet justement de creuser cette question d'identité visuelle. En fait, l'abonnement, c'est un abonnement que je propose sur un an. Avant, je faisais vraiment que des shootings
ponctuels,
au cas par cas, en fait, individuels. Et en fait, l'abonnement, on va vraiment décliner tous les concepts qu'on a identifiés dans l'identité visuelle et on va les décliner sur toutes les séances. Il y a 6 séances dans l'année et ça permet vraiment... de coller à l'actualité du prof, de montrer, de faire une séance par exemple dédiée à chacune de ses pratiques. On peut faire une séance de yin, une séance de prénatal, s'il fait, du massage thaï, tout ce qui peut faire partie de son univers, en gardant toujours un fil conducteur. Et du coup, ça, c'est hyper important parce que du coup, visuellement, on reconnaît toujours son univers. Et puis en plus, ça a l'énorme avantage parce que tu disais qu'effectivement, le problème souvent des profs, c'était d'avoir le bon contenu. Pendant un an, ils ont le contenu à dispo qui est raccord avec leur actualité, avec leur pratique, parce que la pratique, elle évolue aussi. Et parfois, on n'est plus à l'aise de poster des photos qu'on a prises il y a 2 ans sur des postures qu'on maîtrisait moins bien. Et voilà, on a évolué. Donc on a vraiment envie d'avoir quelque chose qui est à jour, en fait. Ça permet vraiment d'avoir beaucoup d'harmonie aussi visuellement parce que on n'a pas, les photos que j'ai faites avec un photographe professionnel, la photo que ma mère a prise de moi sur la plage, où il y a un petit quand même décalage. Pas pour tout le monde, mais parfois, ça peut arriver en termes de qualité d'image. Et du coup, ça choque un peu l'œil. Là, ça nous fait vraiment un contenu hyper uniforme en termes de qualité, de couleur, de message. Et c'est quelque chose, du coup, qui marche super bien, que j'ai lancé depuis un peu plus d'un an et sur lesquels j'ai super bons retours.
C'est ton membership à toi, quoi, finalement. Hein.
Exactement.
C'est un bon exemple de membership. En tout cas, non, effectivement, je pense que c'est super de pouvoir avoir ces photos pro. Alors maintenant, évidemment, la question qui revient quand même aussi souvent quand il s'agit de visuel, c'est comment faire aussi ces photos soi-même. Parce qu'effectivement, si on peut s'offrir un shooting, c'est bien. Et je pense que voilà, c'est à prévoir. Parce que c'est un vrai investissement qui a vraiment un pouvoir impactant dans le développement de notre business. Mais si je dois aussi en parallèle de ça faire des photos de yoga moi-même, et alors bon, le plus souvent, hein, je dirais que je pense que tout le monde utilise le plus souvent son smartphone pour se prendre en photo. Alors, est-ce que tu as des petites astuces à nous donner pour qu'on s'en sorte avec nos photos?
C'est bien sûr, évidemment, c'est tout à fait réalisable avec un smartphone aussi. Il faut pas prendre... Si on peut éviter d'avoir son téléphone qui date d'il y a 10 ans, ce sera toujours mieux en termes de qualité. Mais aujourd'hui, voilà, on est vraiment sur des capteurs de très bonne qualité sur les smartphones. Donc, on peut tout à fait réussir à faire des choses très sympas avec son smartphone. L'idée, c'est un petit peu la même que ce dont je vous ai parlé et ce que je fais pour les shootings, c'est de préparer ça quand même malgré tout. Il y a toujours un petit travail préparatoire qui va permettre de cadrer et d'éviter un petit peu les erreurs de base qui font qu'après on a un rendu un petit peu moins bien. Le gros challenge en photo en général, que ce soit avec du matériel professionnel ou avec un smartphone, c'est la lumière. Il n'y a pas de photo sans lumière. Donc avant tout, il faut vraiment vraiment penser à sa lumière. Il faut soit aller en extérieur ou en intérieur, mais vraiment dans un environnement très lumineux. Parce que ce qui va vraiment détériorer la qualité d'une image, c'est le manque de lumière. Ça fait ce qu'on appelle du grain. C'est comme des petits points qu'on voit partout sur l'image. Et c'est pas joli. Donc, ça se travaille. Il faut vraiment aller chercher la lumière. Les meilleures heures de la journée en photo, c'est soit tôt le matin au moment du lever du soleil ou en fin de journée au moment où le soleil se couche. Il y a la fameuse golden hour qu'on voit beaucoup plus facilement au printemps, début d'été, en fin de journée où on a cette lumière hyper chaude, assez jaune, qui est au moment où le soleil se couche, qui est absolument fabuleuse. Au contraire, il vaut mieux éviter l'heure de midi où le soleil est très haut et ça va faire des grosses, grosses ombres sous les yeux, sous le nez, et ce sera moins joli. Mais bon, donc ça c'est des petites astuces. Mais l'idée, quand on est avec son smartphone, c'est toujours, toujours de bien chercher la lumière. Il y a bien sûr l'option trépied quand on est tout seul. Mais mon conseil, surtout quand on commence, c'est de se faire accompagner par quelqu'un. Dans l'idéal qui connaît le yoga, c'est encore mieux. Ouais. Mais quelqu'un qui puisse prendre des photos pour nous. Et puis, petite précision, il faut savoir que sur un téléphone, il y a deux capteurs.
Oui. Il y en a
un capteur qui prend quand on est en position selfie et un autre capteur de l'autre côté. Et il faut savoir que celui qui est côté selfie, il est de moins bonne qualité et le rendu va être moins bon. Donc l'avantage aussi d'être avec quelqu'un d'autre, il va vous prendre de l'autre côté avec le capteur qui est plus performant et l'image sera aussi d'une qualité meilleure. Une fois qu'on a pensé à ça, un petit peu à la qualité du capteur, à la lumière, la dernière chose qui est très très simple et qu'on réalise sans souci avec son smartphone, c'est de changer les plans et les angles de vue. Et au final, c'est très très simple. De manière spontanée, on a tendance à prendre une photo en étant debout avec le téléphone face à ses yeux. Bon, ça, c'est vraiment la base, ok. Mais en fait, on peut changer ça très facilement en s'éloignant, en s'approchant vraiment beaucoup pour faire un gros plan sur des mains en moudra, sur le visage, les yeux fermés. Voilà. Et tout ça, c'est des choses qui sont très, très faciles à faire avec un smartphone, en fait, et qui vont très rapidement... améliorer la qualité parce que des photos, juste parce qu'on va amener de la diversité. Et c'est ce qui compte aussi. Il faut changer les angles de prise de vue. Après, on peut s'amuser, faire plein de choses, monter sur un escabeau pour prendre la photo vraiment d'au-dessus. Enfin, voilà, plein de choses sont réalisables. Mais voilà, pour commencer, pensez juste à varier les plans et à vraiment, vraiment chercher la lumière et vos photos vont être améliorées très, très rapidement.
Ok. Et alors moi j'ai une petite question. En fait, ce que je fais souvent, c'est que alors bon moi je fais du côté selfie, donc je sais que c'est moins bon, mais admettons même qu'on le fasse de l'autre côté. En fait, je me filme et ensuite je viens capturer des images dans ma bande vidéo. Ce qui me permet en fait des fois d'arriver à avoir des photos un peu en mouvement et je trouve que c'est assez sympa. Est-ce que c'est quelque chose qui est ok pour toi ou enfin est-ce que ça peut être
tu vas peut-être un petit peu perdre en qualité encore une fois en qualité d'image. Après pour avoir ce côté mouvement tu peux aussi prendre en rafale, tu vois, ou tu te mets à faire un flow, tu prends en rafale. Après ça va être tu vas devoir faire ton tri, mais tu auras des photos qui seront du coup un peu plus inattendues, qui peuvent te surprendre, où tu seras vraiment en mouvement et ça peut être très sympa aussi.
D'accord, ok, bon petit tips, super. Et alors ensuite vient la question, donc j'ai pris mes photos, alors idéalement effectivement j'ai la bonne lumière, mais je pense que on est nombreux souvent à vouloir retoucher après la photo. Alors entre les retouches sur l'appli Instagram, les retouches ne serait-ce qu'avec la fonction appareil photo aussi où on peut modifier voilà. Moi je sais que j'ai aussi l'habitude de travailler avec des presets. Qu'est-ce qui est la meilleure option? Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire au niveau des réglages? Parce que je crois qu'on fait vite des catastrophes, en fait.
en fait, faut tester. Hein. C'est comme tout, ça s'apprend. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que les retouches, enfin ce qu'on va appeler le post-traitement, enfin c'est assez essentiel malgré tout. En très très peu de temps, on peut vraiment vraiment améliorer son image. Donc moi je recommanderais vraiment de passer 3 minutes par photo juste à toucher 3 réglages qui vont vraiment changer la donne. Les filtres, je suis vraiment pas fan parce que ça détériore vraiment la qualité de l'image. Très souvent, ils sont super violents. Enfin, les réglages sont vraiment poussés à l'excès pour vraiment marquer la différence. Mais du coup, le rendu est pas vraiment naturel. Ça peut donner des images très, très, très saturées. Et il faut savoir aussi que l'algorithme d'Instagram va privilégier les photos de bonne qualité. Donc, si on a une photo qui est déjà un peu moyenne, un peu sombre, on rajoute un filtre qui va encore la détériorer. En termes de qualité, on va commencer à être vraiment très, très bas. Donc moi les filtres je conseille de les éviter. Après les presets c'est une question un petit peu c'est à double tranchant parce que l'idée du preset c'est qu'il va super bien marcher si vos photos sont toujours prises dans les mêmes conditions de lumière notamment. Donc si on est toujours dans le même cadre, on va pouvoir utiliser le même preset et ça va fonctionner. Mais la plupart des cas, la plupart du temps, c'est pas le cas en fait. Donc il va falloir ajouter encore des réglages
pour retravailler
ce qu'on a changé avec le preset. Et donc en fait, moi je me dis que si on est capable de retravailler correctement le preset, c'est qu'en fait on est complètement capable de gérer les réglages de base qui vont nous permettre d'avoir la bonne photo directement. Un peu, je pense que c'est ça le concept, parce qu'on va aller toujours un petit peu toucher les mêmes réglages. Le premier, moi, que je conseille de reprendre, c'est l'orientation de l'image. On parle quand même, on cherche toujours le bon alignement. Si on est super aligné, mais qu'en fait la photo n'est pas droite, bah c'est un peu dommage. Donc redresser l'image, c'est hyper important. Si on est notamment face à un bâtiment sur lequel il y a des lignes, des fenêtres, bah tout ça doit être quand même bien droit. Donc redresser l'image, c'est un premier point. Ça prend 3 secondes et c'est assez important. Et puis le second, c'est la luminosité. Donc voilà, pour pouvoir régler si l'image est trop claire, trop foncée, régler ça. Et puis le troisième qui pour moi est indispensable, c'est la balance des blancs ou ce qu'on peut appeler chaleur selon l'endroit où on fait l'application.
Ouais.
Voilà. Donc en gros, ça va être ramener, par exemple, si une image est trop jaune où il y a par exemple des lampes qui sont allumées, on va ramener un petit peu de bleu. Si au contraire elle a été prise dans un endroit où il manque un petit peu de soleil et qu'elle est assez froide, donc avec des tonalités plutôt bleues, on va aller rajouter du jaune. Une fois qu'on a fait déjà ces trois réglages-là, le rendu visuel a tout à fait changé. Ça a pris 3 secondes et on est directement sur quelque chose de beaucoup plus joli.
Et de beaucoup plus quali, ouais. Ok, hyper intéressant. Donc, redresser, luminosité et balance des blancs, quoi. On va tester ça.
En premier. Après, on peut aller très, très loin. Hein. Mais voilà, je dirais que ce sont les essentiels.
Ok, super. Bon, bah là, je crois qu'on a une bonne dose de tips déjà hein, pour prendre nos photos nous-mêmes. Et du coup, quelles sont les photos qui fonctionnent le mieux selon toi? Est-ce qu'il y a des photos qui marchent à tous les coups, quoi, où l'effet, il est waouh?
Tu le vois comment on est très très sollicité visuellement, on voit quantités phénoménales d'images dans notre quotidien sur tout un tas de supports. Une image qui fonctionne bien, c'est vraiment une image qui va transmettre une émotion. En fait, c'est une image sur laquelle on va s'arrêter dans le flot d'images auquel on fait face tous les jours. Donc c'est la pire chose pour un photographe, c'est de laisser indifférent. Il faut une image, on l'aime ou on la déteste, mais au moins on l'a regardée, en fait, c'est ça l'idée. Et pour ça, il faut qu'elle transmette une émotion. Donc il faut que l'image raconte une histoire, qu'elle surprenne, qu'elle déroute, qu'elle fasse rire, qu'on se retrouve dedans, ou enfin qu'elle choque ou qu'elle dérange. Mais en tout cas, il faut qu'elle suscite quelque chose chez la personne qui la voit. Du coup, c'est pour ça aussi que je passe beaucoup de temps à chercher mes décors, parce que quand on a un décor qui est un petit peu en termes de couleur, d'architecture, voilà, un petit peu waouh, bah forcément, on va s'arrêter dessus. Mais de façon plus générale, il y a une image qui fonctionne très bien et que les profs de yoga ont un peu tendance à oublier, c'est tout simplement le portrait. Parce que quand vous vous adressez à votre communauté, on a aussi envie de savoir juste... qui vous êtes réellement et quel est votre visage, parce qu'il y a énormément de choses qui passent à travers votre regard, votre sourire. C'est pas forcément regarder ce magnifique asana que je sais faire à la perfection, c'est très bien, mais le portrait c'est aussi indispensable pour moi. Et alors c'est pas on n'est pas sur LinkedIn, donc c'est pas un portrait corpo hyper standard, mais on peut juste être dans une posture de yoga avec un gros plan sur le visage où on va vraiment avoir le regard, toutes les émotions qui passent à travers le regard, le sourire. Et ça, je pense que ça fait partie un petit peu vraiment des photos indispensables quand on commence pour avoir son portrait. Enfin, après, on le met où on veut dans sa com. Et puis, on n'en voit pas tant que ça. Je pense qu'on a un peu tendance à l'oublier, le portrait.
Je pense que le portrait reste quand même une des photos les plus difficiles à faire. Enfin, moi, à mon sens, hein, c'est se prendre en photo en train de faire une posture. Je trouve que c'est beaucoup plus facile que de réaliser un joli portrait.
Ah bah, sur mes shootings, c'est toujours le moment panique. Je prononce le mot portrait, du coup que je ne prononce plus parce qu'en fait je les prends à la volée comme ça sans qu'on soit au courant, parce que forcément quand c'est spontané ça marche beaucoup mieux. Pour revenir, tu vois, quand je te disais tout à l'heure les petits tips, quand tu prends les photos sur ton smartphone, le portrait tout seul, vraiment bon courage, hein, il faut être super à l'aise pour le faire. Le fait de le faire avec quelqu'un avec qui, en fait, on va échanger des rires et en fait, on aura vraiment quelqu'un à qui sourire, déjà, ce sera beaucoup plus facile. C'est aussi pour ça que faire une photo, même avec son smartphone, mais avec quelqu'un derrière, ça change tout. Parce qu'il va y avoir un vrai échange de regard, quoi. Et le rire, ce sera un vrai rire. Et c'est déjà beaucoup plus simple.
Et du coup, est-ce que c'est important pour toi, quand on vient faire des séances avec toi, en amont déjà de chercher de l'inspiration À la limite, est-ce qu'il y a une checklist est-ce que tu pourrais nous donner, tiens, on va terminer par ça. Est-ce que tu aurais une petite checklist à nous donner de ce qu'il faut préparer ou de quelle chose, de quel type de mood board? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant de venir vers toi
pour préparer la séance? En fait, moi, avant tous mes shootings, je demande effectivement un mood board. Ça permet en fait de se poser, de prendre le temps de réfléchir. Et en fait, tout le monde l'a pas forcément fait spontanément avant de venir me voir. Un mood board où on va vraiment avoir les couleurs, vraiment un code couleur qui parle, des ambiances. Donc, ce sera pas forcément que des postures de yoga. Hein. Ça peut être photos de voyage. Vraiment, on est sur quelque chose de très large.
L'atmosphère,
donc, couleurs, des ambiances, des messages. Et aussi des postures, si on est plus sur quelque chose de très dynamique, de très relâché, mais ça permet vraiment moi de me donner une ligne directrice pour savoir un petit peu où on va, parce qu'après voilà je complète avec ce que je ressens de la personne et puis l'inspiration du moment. Et ce mood board il permet aussi de nourrir sa créativité, son inspiration, parce que il y a un moment on peut aussi avoir un peu l'impression de tourner en rond. Et du coup, le fait de partir à la recherche d'images qui vont, justement, on en revient à la même chose. Enfin, voilà, ces images qui vont créer de l'émotion chez nous quand on va les voir. On va les récupérer, on va les rassembler et on va s'interroger sur pourquoi cette image elle m'a interpellée, qu'est-ce qu'elle a suscité en moi, qu'est-ce que j'ai aimé là-dedans, et du coup ça va nourrir sa créativité et pour donner des idées sur ce qu'on va pouvoir en faire, comment on va pouvoir l'adapter à soi-même. Donc pour moi cette étape de mood board elle est indispensable pour bien visualiser son univers, et puis parce que surtout quand on travaille à deux, du coup, je travaille avec une personne et j'ai besoin de rentrer dans son univers à elle, spécifiquement. Et le fait d'aller chercher à nourrir cette créativité, c'est aussi hyper important en amont du shooting.
Ok, donc dans la checklist, c'est en gros le mood board avec nos couleurs, les ambiances, les messages qu'on veut faire passer. Enfin, ça peut peut-être même être des citations ou autres qui nous représentent.
Tout à fait.
Nos valeurs,
des mots-clés, complètement. Ouais.
Voilà, et puis ensuite des postures. Alors moi, souvent, je recommande un petit peu pour ça, par exemple, d'aller sur Pinterest. Je pense qu'on peut trouver pas mal de...
Instagram, Pinterest. Il y a un site aussi de photographes qui s'appelle 500 Pixels, qui est aussi, visuellement, il y a des choses qui sont un peu plus poussées et qui peuvent être assez inspirantes aussi.
Ok, super. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour se débrouiller tout seul, certes, mais pour faire des photos avec toi. Alors, comment on fait justement si on veut travailler avec toi maintenant? Où est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut voir ton travail? Évidemment, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode, mais si tu peux nous dire un petit peu comment on fait.
Le plus simple, c'est de me contacter. Je suis pas encore multinationale, donc un petit message très simple sur Instagram. Il y a aussi mes coordonnées sur mon site internet yogafotorama.com, sur mon compte Insta, donc delphinejoly_yogafotorama. On me contacte en direct, on échange et puis on part comme ça.
Un petit DM ou un petit mail, comme moi j'ai fait pour t'interviewer, et puis voilà.
C'est aussi simple que ça, puis la preuve, ça marche, quoi. On est là.
Ça fonctionne, exactement. Écoute, en tout cas, vraiment un grand merci à toi, Delphine, pour vraiment la qualité de tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Je pense que là, on peut directement implémenter déjà plein de choses. Et puis se projeter, effectivement, parce que je crois que soit on n'y pense pas forcément, soit c'est peut-être une envie de faire une séance avec un pro, de faire un vrai shooting, mais je pense qu'effectivement ça peut aussi faire peur. Donc là, je pense qu'on a un peu démystifié, dédramatisé tout ça, et c'est hyper bien parce qu'effectivement on a vraiment besoin de beaucoup d'images aujourd'hui dans la communication. Absolument. Et donc c'est un réel besoin pour son business, pour développer son business de yogipreneur. Donc vraiment mille merci à toi. Et puis j'espère que tu auras plein de nouvelles profs de yoga qui viendront vers toi.
Et bah, avec grand plaisir. Écoute, merci beaucoup à toi. J'étais vraiment ravie de partager ce moment avec toi. Et j'en profite aussi pour te féliciter pour la qualité du travail que tu fais, de tout ce que tu proposes, parce que je fais partie de tes fidèles. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite de tout ce que tu développes. J'en serais vraiment ravie.
Merci beaucoup, Delphine. À très bientôt.
À bientôt.
YogiBiz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode tout autant que j'ai adoré l'enregistrer. Et encore un grand merci à Delphine pour toutes ces pépites que vous allez pouvoir mettre au service de votre business de yoga. Bien évidemment, vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode pour contacter Delphine si vous voulez passer à l'action et vous offrir un shooting pro de yoga. Et deuxième petite information, je vous rappelle que la liste d'attente pour le Yogi Challenge Pack est toujours ouverte si vous voulez bénéficier du tarif de lancement, tarif exclusif que je ne referai pas sur ce pack. Donc il s'agit d'une formation pour créer et lancer un challenge de yoga qui convertit. La liste d'attente est dans ma bio Instagram sur mon compte @yogibizcoaching. Vous pouvez également la retrouver dans les notes de cet épisode pour vous inscrire. Je compte sur vous pour partager cet épisode en story, sur Instagram, sur vos réseaux, si l'épisode vous a plu. Pour nous mettre une petite note ou un petit commentaire dans les notes de l'épisode sur Apple Podcast. Et bien évidemment, on se retrouve lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Bye.